France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en cette nouvelle rentrée sur France Culture. Une rentrée pendant laquelle le mot Covid-19 va résonner encore beaucoup dans l'actualité. Sachez d'ailleurs qu'hier, en 24 heures, près de 4900 nouvelles contaminations ont été comptabilisées en France. Un bilan qui grimpe tout doucement. 7 départements sont classés en niveau de vulnérabilité élevé. Il s'agit des Bouches-du-Rhône, de la Guyane, l'Hérault, de Paris, la Sarthe, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Mais il ne faut pas paniquer. Le directeur de la CPM de Caen nous expliquera pourquoi la rentrée et le retour du quotidien pourraient être une bonne chose. Ce sera dans le journal de 6h30. Dans une demi-heure également, quelques mots de la Biélorussie, où des dizaines de milliers de personnes ont défilé hier encore à Minsk contre le président Alexandre Loukachenko. Le mouvement de contestation dure depuis 2 semaines maintenant et l'armée entre en scène. Lui veut se relancer dans la course à la présidence. Donald Trump aborde la convention du Parti républicain aux États-Unis ce soir avec l'obligation de rassembler au-delà de sa base. Dans les sondages, le locataire de la Maison-Blanche est en retard sur son rival démocrate Joe Biden. Les États-Unis, où 2 ouragans pourraient frapper la côte dans le golfe du Mexique en quelques jours, les vents se renforcent cette nuit, alors que les feux de forêt ne cessent de croître du côté de la Californie. Nous irons d'ailleurs sur place à 6h30. Et puis notez cette défaite du PSG en Ligue des Champions hier, émaillée de quelques incidents à Paris, 83 interpellations hier soir. Une défaite 1-0 sur le terrain face au Bayern Munich, mais une victoire symbolique pour le Qatar qui détient le club parisien. Vous entendrez dans une demi-heure que la finale d'hier soir a permis aux Qataris de redorer leur image dans le sport.
L'histoire s'écrit tous les jours sur France Culture. Xavier Mauduit.
Ce fut une explosion gigantesque. Une ville, un peuple ont été blessés et même au-delà. Pourquoi une telle émotion? Le cours de l'histoire fait escale dans un port millénaire, Beyrouth au Liban. Combien de fois cette ville a-t-elle été meurtrie pour toujours se relever? De l'antique port phénicien au grand Liban français, de la ville mémoire à la guerre civile, Beyrouth est une ville qui ne cesse de se construire et de se reconstruire.
Le cours de l'histoire, du lundi au vendredi à 9h05 sur France Culture et sur franceculture.fr.
Tous les jours sur France Culture à 11h, Culture Monde, le magazine sans frontières, Florian Delorme.
Culture Monde, c'est votre magazine international quotidien sur France Culture. Des grands thèmes d'actualité déclinés tout au long de la semaine, une approche comparatiste pour saisir la diversité et la complexité du monde, avec cette ambition, mieux comprendre comment les grandes questions de notre temps animent les relations internationales.
Culture Monde, du lundi au vendredi à 11h et sur franceculture.fr.
6h03 pour cette nouvelle rentrée sur France Culture. On garde les bonnes habitudes d'écoute avec dans quelques instants Toufik Hakem pour le réveil culturel. Mais avant cela, voici votre nouveau rendez-vous, Le Monde Vivant de Bruno David, qui nous parle aujourd'hui du corbeau.
Dans une célèbre fable, le corbeau se fait duper par le renard. Mais est-il aussi naïf que la fable le laisse entendre? En réalité, dans les mythes et contes des cultures nord-américaines, sibériennes, nordiques, le corbeau est le plus souvent un coquin, un rusé. Donc pas si bête le corbeau. Mais au cours de l'histoire, et particulièrement dans l'Europe chrétienne, leur comportement nécrophage, leurs cris rauques et leur plumage noir les ont progressivement associés au lugubre et à la mort, et ils ont fini par passer pour des oiseaux de mauvais augure. Rusé ou lugubre, lequel des deux? En Europe, le corbeau diabolisé a pris le pas sur le corbeau rusé. Le champ de blé au corbeau peint quelques jours avant son suicide par Van Gogh, les menaçants corbeaux d'Hitchcock parachèvent cette sinistre réputation. Mais la science la plus actuelle, comme des observations anciennes, converge pour faire du corbeau un animal étonnant d'intelligence. En Norvège, le surnom des oursins est Krøkeboll, autrement dit boules à corbeau, car ces derniers, pour se régaler sans se piquer, saisissent les oursins en bord de mer, s'envolent et les laissent chuter sur les rochers où ils se brisent. Festin garanti sans épines. Les scientifiques testeurs et surtout admirateurs de corbeaux ont constaté que les corbeaux pouvaient obtenir une récompense en enchaînant logiquement jusqu'à 8 manipulations, sans avoir appris préalablement à mettre ces étapes dans le bon ordre. Les corbeaux sont également sociaux. Il suffit de les observer s'abattre sur un champ en hiver Et c'est ce qui a poussé les admirateurs des corbeaux à les suspecter d'empathie vis-à-vis des congénères. Aussitôt dit, presque aussitôt fait. Une étude récente a mis au point une expérience démontrant chez les corbeaux une contagion émotionnelle face à un congénère en difficulté. L'image que l'on se fait des corbeaux est donc en train de changer. Et cela s'accompagne d'une leçon fort intéressante qui, une fois de plus, bouscule notre anthropomorphisme. Les capacités cognitives des mammifères sont associées au développement d'une partie périphérique du cerveau, le néocortex. Comme les oiseaux n'ont pas de néocortex, on a eu un peu trop tendance à négliger leurs capacités cognitives. Dans la langue populaire, avoir une cervelle d'oiseau n'est pas un compliment. Comme si, pour être intelligent, les animaux devaient avoir la même anatomie que la nôtre. Alors, où sont donc logées les capacités cognitives des corbeaux ? On les a détectés dans un cortex peu développé. Bizarre, non? Le cortex des oiseaux est pavé de petits neurones très denses, plus denses que chez les mammifères. Les neurones des mammifères se relient entre eux par du câblage long, ceux des oiseaux par du câblage court. Contrairement à toute attente, chez les corbeaux, petite tête et intelligence vont ensemble. En d'autres termes, les oiseaux n'ont pas besoin d'avoir la grosse tête pour être intelligents.
Bonjour, bonjour. Café, biscotte et France Culture pour se réveiller les neurones.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, je suis particulièrement ravi et je dois dire un peu ému de vous retrouver après une si longue absence pour une nouvelle saison du Réveil culturel. Tôt le matin à la radio du lundi ou vendredi, ou quand vous voulez, en passant par le podcast ou l'écoute en ligne, le Réveil culturel, c'est l'actualité de la culture populaire par celles et ceux qui la font. On parle de livres les lundis, d'expos le mardi, de cinéma le mercredi, de musique le jeudi et de bande dessinée enfin le vendredi. Et en ce lundi de rentrée, je reçois Fatima Das pour son remarquable premier roman « La petite dernière » aux éditions Noir sur Blanc dans la collection Notabilia.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Bonjour Fatima Das.
Bonjour Taoufik.
Alors, je devrais plutôt dire Fatima Das, non ? Comment ça se prononce ?
Fatima Das.
Vous avez 25 ans, vous avez grandi en banlieue parisienne, à Clichy-sous-Bois, dans une famille nombreuse, d'origine algérienne. Et vous sortez donc votre premier roman cette semaine, La petite dernière. C'est un monologue. Une jeune fille qui doit suffisamment vous ressembler pour se présenter comme Fatima Das se confesse en quelque sorte, elle qui ment à tout le monde, à l'imam et à la psy, aux petits camarades de lycée et à son amoureuse, la petite dernière qui se révèle au fil des chapitres tout à la fois rebelle et fragile, forte et malade, bête gueule et brave fille, asthmatique, elle ment comme elle respire, c'est-à-dire comme elle peut, souvent avec douleur. Mais pour autant, cette histoire de Fatima Das par Fatima Das, ce n'est pas tout à fait Rosetta des Frères d'Ardenne transposée chez les Arabes de France, ni la vie d'Adèle en version halal. C'est autrement plus intéressant. Je dirais même, c'est complètement déroutant parce que, résumé comme ça, on attend à ce que vous développiez des thèmes de société, le racisme, l'intégration, c'est tout à fait autre chose.
Ben, l'histoire de la petite dernière, oui, c'est un peu, c'est assez complexe. C'est que ça raconte, comment on se construit dans une famille nombreuse avec plusieurs identités qu'on essaye d'épouser sans faire de choix entre une identité ou une autre. J'ai essayé de creuser cette complexité-là, ce rapport à la famille, au père, à la mère, à la place qu'on peut avoir ou ne pas avoir dans une famille nombreuse en étant la petite dernière, mais aussi quelle place on a à l'école avec nos multiples identités, ne pas correspondre à ce qu'on attend de nous en tant que petite fille, en tant qu'adolescente, en tant que femme, et aussi la religion, la place de la religion, comment on réussit à un moment donné à faire d'une religion qu'on nous a transmise la nôtre, et sans choisir encore une fois entre une orientation sexuelle et une religion, et comment faire en sorte de trouver un endroit dans lequel on se sent bien, ou en tout cas où on se retrouve un peu au calme.
Alors, il n'y a pas de drame, il n'y a pas de larmes. Fatima Das, c'est un roman sur la complexité des identités, vous venez de le dire. Ce premier roman est-il pour vous un manifeste, une manière de contribuer aussi au grand débat sur l'identité nationale dans la France d'aujourd'hui ?
Alors, mon roman, c'est un roman, et je considère pas que c'est un manifeste, et il n'a pas été pensé de cette manière-là. Moi, j'ai écrit à un moment donné où ça s'est imposé à moi, et où j'ai pas fait le choix d'écrire sur à cet endroit-là, en fait. Bien sûr que ça touche à des sujets assez importants aujourd'hui, mais j'ai pas essayé d'écrire un manifeste, j'ai essayé d'écrire tout court.
Pour le plaisir d'écrire ou pour trouver des réponses que ni l'imam, ni la psy de votre roman n'ont réussi à trouver pour vous, Fatima Das?
Je pense qu'il n'y a pas de solution dans ce roman. Et il n'a pas été écrit pour trouver des réponses ou comme une quête, enfin, pour régler un problème. Je ne pense pas que la littérature règle des problèmes. Je pense que on écrit pour que ça existe, pour que d'autres... réussissent à se reconnaître dans ce qu'on fait et à verbaliser des pensées, des émotions que d'autres n'ont pas réussi à formuler. Mais je crois pas qu'il y ait de solution. Et je crois que ce roman n'en donne pas et la quête identitaire, elle se poursuit tout au long de la vie.
Mais elle change au fil des époques. Là, c'est vraiment un roman, et c'est ça qui est remarquable, qui vient avec les mots d'aujourd'hui, avec la vision d'aujourd'hui, avec même les sentiments d'aujourd'hui. On peut dire, Fatima Das, dans la petite dernière, que, par exemple, la double culture qu'on a vantée dans un passé, la double culture, la double vie que mène Fatima, c'est deux fois la double peine pour elle.
C'est à la fois la double peine, et c'est aussi ce qui fait écrire. C'est-à-dire que c'est complexe, c'est jamais... juste quelque chose qui nous tourmente. Par exemple, la foi, dans le roman, c'est à la fois quelque chose qui fait du bien, la foi, c'est quelque chose qui nous élève et qui nous fait tenir, mais en même temps, c'est quelque chose qui fait du mal. Et c'est que ça dans le roman, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de lisse, et c'est que du mouvement.
C'est un roman aussi sur l'adolescence, parce que là, on vit avec le personnage qui est votre double littéraire, Fatima Das, dans ce premier roman, La Petite Dernière, tous les affres de l'adolescence.
Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'adolescence. Et Fatima, à l'adolescence, elle n'arrive pas à parler. Elle n'arrive pas à s'ouvrir aux autres, elle n'arrive même pas à savoir qui elle est, ce qu'elle est en train d'être. Il y a tous ces passages... à l'école, qui peuvent être violents parfois, et parce que c'est une élève qui a de bons résultats, mais en même temps, elle est ce qu'on appelle une élève perturbatrice. C'est qu'elle trouve pas sa place à l'école, elle trouve pas sa place dans cette adolescence qu'elle essaye de saisir. Je crois que c'était très important pour moi de parler de cette période-là, parce que ça construit beaucoup la Fatima d'après.
Quelques extraits de La Petite Dernière de Fatima Das, lus par la comédienne Marie Constant.
Je m'appelle Fatima. Je porte le nom d'un personnage symbolique en islam. Je porte un nom auquel il faut rendre honneur. Un nom qu'il ne faut pas salir, comme on dit chez moi. Chez moi, salir, c'est déshonorer. Je m'appelle Fatima. Je suis une petite chamelle sevrée. Je suis la Mazouzia. La dernière, la petite dernière. Avant moi, il y a trois filles. Mon père espérait que je serais un garçon. Pendant l'enfance, il m'appelle Blidi, mon petit-fils. Pourtant, il doit m'appeler Benti, ma fille. Il dit souvent « tu n'es pas ma fille ». Pour me rassurer, je comprends que je suis son fils. Je m'appelle Fatima Das. Je porte le nom d'une clichoise qui fait plus de trois changements pour aller à l'université. Quand ça roule bien, j'arrive à la gare en un quart d'heure. Je dois rejoindre le RER, le B quand je me trouve à la gare d'Aulnay, le E quand je suis au Raincy. La première année, j'arrive en avance à mes rendez-vous, qu'ils soient personnels, médicaux ou professionnels. La deuxième année, j'arrive à l'heure. La troisième année, j'arrive en retard. La quatrième année, je n'arrive pas. Je m'appelle Fatima. Je recherche une stabilité. Parce que c'est difficile d'être toujours à côté. À côté des autres, jamais avec eux, à côté de sa vie, à côté de la plaque.
extrait de La Petite Dernière, le premier roman de Fatima Das, dans la collection de Dabilia. C'est aux éditions Noir sur Blanc. Si on parlait maintenant de la forme, vous l'avez trouvé tout de suite cette forme, c'est-à-dire le journal intime, le monologue, le fait de commencer chaque chapitre en rappelant que vous êtes Fatima Das.
C'est venu plutôt progressivement dans l'écriture. J'avais commencé ce texte avec « Je m'appelle Fatima, je suis d'origine, etc. » Mais je ne l'avais pas mis en fait à chaque début de chapitre. Et c'est venu vraiment au fur et à mesure parce que j'avais répété cette anaphore 2-3 fois. Et ensuite, je me suis dit, mais en fait, ça doit revenir ce « Je m'appelle Fatima » comme pour affirmer son identité, comme pour épouser toutes ces identités contradictoires, comme pour les faire entièrement siennes, en fait.
Pourquoi contradictoire, Fatima Das ?
Contradictoire parce que les autres nous rappellent que ces identités-là ne peuvent pas être assemblées.
C'est-à-dire musulmane et française, musulmane et lesbienne ?
Musulmane et lesbienne, clichoise qui écrit, bonne élève mais pas que... C'est des contradictions qu'on nous impose à un moment donné. En fait, on ne se rend pas compte qu'on est musulmane, lesbienne, jusqu'à ce qu'on nous dise qu'on ne peut pas l'être.
Vous avez fait des études littéraires, Fatima Das ?
J'ai fait une licence de lettres à Paris 3. Et ensuite, j'ai fait un master de création littéraire à Paris 8 à Saint-Denis.
Donc, vous avez décortiqué des textes, vous les avez analysés. Vous aimez ça ?
J'aime beaucoup ça, oui.
Et si on faisait ça avec votre premier roman, si on prenait un extrait de votre roman et un paragraphe, on essayait ensemble de le décortiquer. Je suis française, je suis d'origine algérienne, musulmane pratiquante, clichoise qui passe plus de 3 heures par jour dans les transports, une touriste, une banlieusarde qui observe les comportements parisiens. Je suis une monteuse, une pécheresse. On commence par le dernier mot, une pécheresse.
Une pécheresse... Dans la bouche de Fatima, c'est quelqu'un qui fait des erreurs, qui se trompe, qui s'égare.
Je suis une monteuse.
C'est quelqu'un qui n'a pas le privilège de dire la vérité.
Pour garder l'amour de sa mère, par exemple.
Pour garder l'amour de sa mère, pour ne pas brusquer, pour ne pas imposer une parole qu'on n'a pas envie de recevoir.
Une banlieusarde qui observe les comportements parisiens. C'est si différent, Clichy, Paris.
Paris, c'est l'inconnu quand Fatima commence réellement à fréquenter des lieux parisiens et commence à faire ses trajets. Parce que Clichy-sous-Bois, pour elle, à ce moment-là, c'est un peu chez elle, j'ai envie de dire. Et quand elle part à Paris... Elle sent déjà par la durée du trajet qu'elle va ailleurs. Et dans cet ailleurs-là, elle a l'impression que rien ne lui est familier.
Parce que l'air de rien, vous dites des choses terribles. Une touriste, dites-vous.
Tout à fait, il y a ce sentiment d'étrangeté, de nouveau, qu'elle n'a pas l'habitude de trouver à Clichy-sous-Bois, par exemple.
Et cette clichoise qui passe plus de 3 heures par jour dans les transports, qui observe les gens... C'est vous, Fatima Das ?
C'est un petit peu moi.
Musulmane pratiquante, ça veut dire quoi ?
C'est le contraire d'une musulmane qui ne pratique pas. Et c'est-à-dire que la foi, pour Fatima, elle s'alimente d'actes et de pratiques. J'ai une grande foi, je pense.
Je suis d'origine algérienne, ça veut dire quoi pour vous ?
Toute ma famille est née en Algérie et que j'ai un lien à l'Algérie. Que j'essaie de reconstituer.
Et enfin, je suis française.
Je suis française, je suis née ici et je bricole avec la France.
C'est-à-dire ?
J'essaie de trouver une place dans laquelle je peux être Fatima Das. For life in this park, every girl coming like a shark. Put that thing in park. I'ma let my fin pick you apart. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure.
Quand le temps va et vient, on ne pense à rien, malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. On se dit qu'à 20 ans, on est les rois du monde, et qu'éternellement, il y aura dans nos yeux tout le ciel bleu. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure.
Le réveil culturel, Tufik Hakem sur France Culture.
Et la rentrée se fait avec Fatima Daz, son premier roman, La Petite Dernière, où elle se raconte, c'est un peu un journal intime, romancé, où la famille est aimante mais contraignante, les amours sont compliqués, on peut dire que Nina, l'histoire d'amour de Fatima, est impossible, mais il reste l'amitié, le temps de l'adolescence, c'est aussi le temps de l'amitié, et ce livre, c'est un bel hommage à l'amitié, hein, à travers ce personnage très fort de Rokia.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que Rokia, c'est un personnage aussi symbolique dans cette histoire. C'est la personne avec qui Fatima, elle arrive à discuter et à dire des choses très intimes. Et c'est, je crois, la seule personne, en fait, dans le roman avec qui elle arrive à parler. Et je pense que, oui, il y a un hymne à l'amitié comme quelque chose qui vient lui permettre de souffler, en fait, de retrouver une certaine respiration.
Il y a aussi le portrait du père, ce père qui peut être d'une violence inouïe. On aurait aimé ne pas l'aimer, mais il se trouve qu'il est, par ailleurs, presque en même temps, un bon père de famille.
Le personnage du père, il est complexe. Il a un bagage culturel, il a aussi son lot de souffrance et de violence. Donc, il ne s'agit pas de créer un personnage... complètement diabolique, parce que c'est jamais que diabolique. Et il y a des passages, je crois, qui montrent une certaine présence durant l'enfance et qu'on ne doit pas oublier.
Et un autre beau portrait, celui de la mère, c'est une femme exceptionnelle, aimante. Cette mère, c'est tout à la fois le repère nécessaire pour Fatima Daz, mais aussi la limite de son émancipation.
Tout à fait. C'est-à-dire que Fatima... sa mère, c'est son exemple, et en même temps, elle a l'impression de se prendre des murs à chaque fois, parce que elle a l'impression de ne jamais pouvoir réussir à la rendre fière.
Et qu'elle ne peut pas tout lui dire de sa vie intime, de sa vie sexuelle, de ses orientations sexuelles, par exemple. Elle ne veut pas lui dire parce que elle l'aime, cette mère. Elle veut pas la brusquer, et en même temps, c'est une violence pour Fatima.
La parole, c'est à double tranchant, et Fatima, elle ne trouve pas l'espace pour pouvoir en parler avec sa mère. Et elle ne veut pas lui imposer cette parole-là parce qu'elle ne veut pas la recevoir. Et dans les non-dits, il y a de la pudeur et il y a aussi comment on trouve un endroit où, sans se dire les choses, on les ressent et on les accepte sans en parler.
Alors, votre premier roman, Fatima Das, est accompagné d'un texte de Virginie Despentes qui joue la maman ou la grande sœur. Elle aime beaucoup votre texte. Et voilà ce qu'elle dit. Le monologue de Fatima Das se construit par fragments comme si elle updatait Barthes et Mauriac pour Clichy-sous-Bois. Ici, l'écriture cherche à inventer l'impossible. Comment tout concilier? Comment respirer dans la honte? Comment danser dans une impasse jusqu'à ouvrir une porte là où se dressait un mur? Ici, l'écriture triomphe en faisant profil bas, sans chercher à faire trop de bruit, dans un élan de tendresse inouïe pour les siens, et c'est par la délicatesse de son style que Fatima Das ouvre sa brèche. Vous l'avez rencontrée comment, Virginie Despentes?
Pendant mon master de création littéraire, elle était venue animer un atelier où on a échangé sur son parcours littéraire. Et on avait eu l'occasion de discuter avec elle ensuite. Et je lui avais dit que je commençais un texte et que j'avais pas envie de le terminer et que j'allais arrêter. Donc je lui ai raconté un petit peu l'histoire de la petite dernière qui n'était pas finie. Et elle m'a dit, mais non, en fait, il faut que tu continues. Et ce texte-là, il est très important, en me citant des noms et en me disant, ça fera du bien à telle et telle personne.
À telle et telle personne? C'est-à-dire?
Des noms de personnes qu'elle fréquente. Et elle me disait que c'était important, cette parole, qu'il fallait la porter jusqu'au bout.
Vous avez 25 ans, Fatima Das?
J'en ai 24. Je vais faire 25 ans en octobre.
Alors, ce qui est bizarre, c'est que la Fatima Das du livre, la petite dernière, elle va jusqu'à ses 29 ans. Comme si la fiction, le roman, était aussi une extension, non seulement une extension de vous-même, une projection aussi de vous-même dans le futur.
C'était important pour moi de raconter une histoire qui n'est pas complètement la mienne. Et j'avais envie de prolonger. J'avais envie de voir plus loin que juste une partie de ma vie.
Merci d'être venu, Fatima Das. Ça a été un plaisir de vous avoir pour cette reprise du Réveil culturel. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Bonne rentrée sur France Culture. Nous, on se retrouve demain. Et comme tous les mardis, on parlera des expos à voir. Et demain, on parlera des Parisiens dans l'Exode. Attention, c'est pas l'Exode des Parisiens du printemps 2020, mais celui de 1940. Et je serai avec la directrice du Musée de la Libération de Paris, Sylvie Zeldman. Bonne matinée sur France Culture.
France Culture, l'esprit d'ouverture. Former, réagir, le matin sur France Culture, Guillaume Erner.
Rentrée des classes pour les uns, lutte des classes pour les autres. Les matins sont sur tous les fronts et pas seulement celui de la pandémie. Retrouvez vos rendez-vous d'actualité dès 6h57. Du billet politique à la revue de presse internationale, France Culture vous informe chaque jour et éclaire l'actualité.
Les matins de France Culture, du lundi au vendredi de 7h à 9h et sur franceculture.fr. Affaires culturelles sur France Culture, Arnaud Laporte.
Affaires culturelles s'engage pour la culture et la création, une émission en trois parties, un grand entretien avec un artiste, affaires en cours, un objet culturel qui se trouve relié à une question de société, affaires à suivre, des nouvelles du secteur culturel dans les régions et à l'étranger.
Affaires culturelles, du lundi au vendredi à 19h sur France Culture et sur franceculture.fr. Information coronavirus. Le virus est toujours là et nous pouvons tous être contaminés. Pour stopper la transmission, chacun doit être responsable. Dès l'apparition de signes, même légers, comme la toux, la fièvre, le mal de gorge, le nez qui coule ou la perte du goût et de l'odorat, contactez rapidement votre médecin pour qu'il décide si vous devez être testé. En attendant les résultats du test, restez chez vous et évitez tout contact, surtout avec les personnes fragiles. Ensemble, bloquons l'épidémie. Si vous avez besoin d'aide, appelez le 0800 130 000, appel gratuit.
Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour à tous. Des chiffres préoccupants dans certaines communes et notamment à Agde dans les Bouches-du-Rhône. Un bilan qui grimpe légèrement. Le Covid-19 se propage en France en cette rentrée, mais justement, cette rentrée pourrait nous offrir une stabilité. Explication à suivre. Vous entendrez ensuite comment Jean-Luc Mélenchon dit ne pas être candidat à la présidentielle 2022 pour le moment, tout en en posant les bases. Fin de journée d'été de la France insoumise hier. Nous irons en Californie, où les incendies ne faiblissent pas, bien au contraire. Trois feux font déjà partie des plus graves de l'histoire de cet État américain. Notre correspondant nous racontera. Et puis nous donnerons la parole à un défenseur de la chaîne de télévision qui ne l'a plus la parole. France O s'est arrêtée cette nuit à minuit. La vitrine des Outre-mer n'était pas rentable, explique France Télévisions. En cette rentrée, pour certains, le nouveau coronavirus gagne encore du terrain. 4897 nouveaux cas en 24 heures hier en France, du jamais vu depuis le déconfinement au printemps. Les retours des vacances font craindre le pire. Et pour s'y préparer, les brigades des caisses primaires d'assurance maladie sont en train d'être renforcées. Elles sont chargées de retrouver les personnes en contact avec un cas positif. Le retour au travail ou à l'école ces prochains jours pourrait être positif, selon le directeur de la CPAM de Caen, Jean-Joseph Robineau, se veut optimiste et il s'explique ce matin.
La rentrée nous conduit tous à revenir dans un environnement mieux maîtrisé, avec une connaissance plus fine dans les semaines qui viennent des gens avec lesquels on a été en contact. Parce que quand on est en vacances, malgré tout, il y a quand même des rassemblements, il y a des lieux où on n'est pas forcément complètement certain d'avoir identifié tous les acteurs, ou même on ne les connaît pas vraiment, avec qui on est en contact. Et tout ça, c'est quand même un environnement inhabituel. Alors que là, on va revenir dans un format plus conventionnel, avec des mesures structurantes et structurées dans les entreprises. Et Dieu sait si aujourd'hui, on met fortement l'accent pour prendre un maximum de précautions sur les lieux de travail. Je pense que là aussi, sur les transports en commun, on continue à renforcer. Donc globalement, c'est quand même plus stable. Et moi, ça me laisse penser qu'on devrait être plus à l'aise pour éviter cet emballement.
Voilà, ces propos plutôt positifs, recueillis par Hélène Chevalier pour cette rentrée 2020. La lutte contre le Covid-19, c'est d'ailleurs la priorité de ces jours-ci. Le plan de relance économique est décalé, il ne sera détaillé que la semaine prochaine sur décision du gouvernement français. En politique, Jean-Luc Mélenchon prend date. En clôture des journées d'été de la France insoumise hier, le chef de file du parti n'a pas dit s'il était candidat ou non pour la présidentielle 2022. Il prendra sa décision à l'automne, mais sa candidature est très probable, Sarah Tuchérer.
Un discours de clôture de près de 2 heures, de quoi montrer qu'il n'a en rien levé le pied. Ses amphis n'étaient ni le lieu ni le moment pour une déclaration de candidature. Jean-Luc Mélenchon l'a expliqué. Il aurait été indécent, ridicule de parler de casting alors que la crise sociale post-Covid s'annonce. Mais le suspense ne durera pas longtemps.
Je prendrai ma décision au mois d'octobre. Auparavant, je consulterai en profondeur chacun de mes amis. Car j'ai besoin, pour savoir ce que je dois faire, d'avoir la certitude que les premiers qui me porteraient, le cas échéant, seraient mes camarades.
Pour l'heure, les camarades le soutiennent. Il a l'expérience et la notoriété. Il est le meilleur, clament en chœur proches et militants. Un autre scénario, une candidature réunissant plusieurs forces de gauche, est-elle encore possible? La venue aux amphis du maire écologiste de Grenoble, Éric Piolle, partisan d'un arc allant de la France insoumise au PS, a redonné un peu de crédit à cette hypothèse. Réelle volonté de trouver un terrain d'entente ou démonstration destinée à écarter les procès en sectarisme souvent faits à la France insoumise au sein même de la gauche. Les semaines à venir le diront.
Les rues de Minsk étaient encore constellées de drapeaux rouges et blancs hier, brandis par des dizaines de milliers de manifestants anti-gouvernementaux, c'est en Biélorussie. La crise politique y dure depuis le 9 août dernier, depuis la réélection contestée du président Alexandre Loukachenko. L'armée indique maintenant qu'elle assurera directement le maintien de l'ordre et la protection des monuments en lieu et place de la police. Au Mali, c'est la junte qui a pris le pouvoir en début de semaine et elle annonce une transition de 3 ans dirigée par un militaire. Niger. Elle accepte dans le même temps de libérer le président déchu Ibrahim Boubacar Keïta, emprisonné depuis mardi. Nous reviendrons sur ces événements et sur l'avenir politique au Mali avec le retour joyeux de Julie Gacon en cette rentrée pour les enjeux internationaux, toujours à 6h40. Avant cela, partons quelques instants de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, où les centaines d'incendies progressent toujours sur le terrain californien. Les conditions météo ne s'arrangent pas, avec des vents qui se lèvent, des éclairs qui pourraient déclencher de nouveaux départs de feu. Notre correspondant Loïc Piala nous raconte.
La vidéo a fait le tour des télévisions américaines. Deux pompiers coincés sur une colline et héliportés en pleine nuit, alors que les flammes se rapprochent dangereusement. Un exemple des conditions difficiles auxquelles font face 14 000 soldats du feu débordés, explique un de leurs chefs à la chaîne NBC. Ces gars-là sont sur le terrain 48 heures, 72 heures d'affilée, précise-t-il. Ils ont besoin de repos et c'est ce qu'on essaie de leur donner. C'est important de prendre soin d'eux. Et des renforts arrivent d'une dizaine d'États. La garde nationale et l'armée ont aussi mobilisé des hommes et des moyens aériens. En attendant, des habitants comme Will Cook luttent contre les flammes avec de simples seaux d'eau. On fait le tour du quartier, raconte-t-il, on inspecte les maisons, on cherche des départs de feu à éteindre. Plus de 100 000 personnes ont reçu un ordre d'évacuation. Ricardo commence à en avoir l'habitude. On a l'impression que c'est un incendie record chaque année, dit-il. Honnêtement, c'est pénible, surtout qu'on a déjà déménagé de l'autre côté de la ville à cause d'un autre incendie l'an dernier. En une semaine, le SCU Complex et le LNU Complex dans la région de San Francisco sont devenus les deuxième et troisième feux les plus importants de l'histoire de la Californie.
C'était Loïc Piala à Los Angeles pour France Culture. Un mot de football ce matin et cette marche historique que le Paris Saint-Germain n'a pas su franchir. Le club parisien s'est incliné 1-0 en finale de la Ligue des Champions hier soir. Son président, le Qatari Nasser El Khelaifi, s'est quand même dit fier de son équipe. Il faut dire que cette épopée a permis au Qatar de faire oublier les zones noires de son histoire sportive. Le Qatar détient le Paris Saint-Germain, je vous le rappelle. Jean-Baptiste Guégan, enseignant géopolitique du sport, spécialiste des pays du Golfe, expliquait cette épopée hier soir sur France Culture.
Depuis à peu près 2 ans, lorsqu'on parle du Qatar, on parle des choses négatives. C'est-à-dire, je vous parlais du semi-échec des championnats du monde d'athlètes à Doha en 2019, mais il y a aussi la question des travailleurs étrangers, la surmortalité sur les chantiers, la crise du Golfe. Donc autant d'éléments négatifs qui finalement nuisent à l'image de modernité que veut diffuser le Qatar. Avec cette finale-là, il y a une possibilité de communiquer pendant de longs mois. Et donc là, on est dans un des objectifs du soft power tel qu'on le définit, c'est-à-dire que vous maîtrisez le calendrier international et vous maîtrisez la narration autour. Et donc derrière, c'est vous qui maîtrisez la séquence et vous racontez ce que vous voulez. Et donc, pour un pays qui va justement préparer l'après, c'est idéal. C'est pas simplement les supporters du PSG qui seront ravis, c'est tout un pays. Et c'est là où on voit ce qui est devenu le PSG pour le Qatar, c'est-à-dire une deuxième sélection nationale.
C'était Jean-Baptiste Guégan, interrogé par Mathieu Laurent. À ne pas oublier enfin la fin de France O cette nuit. À minuit tout à l'heure, l'écran était noir sur le canal 17 de la TNT, le canal 19 de la TNT. La direction de France Télévisions évoque de trop faibles audiences, mais les journalistes et les téléspectateurs dénoncent une invisibilité grandissante des Outre-mer à la télévision. Hier, le collectif Sauvons France O s'est mobilisé devant le ministère de la Culture. Rien n'y a fait. Écoutez, Kant Lebeau, à l'initiative de ce collectif, il voit dans cette fermeture de la chaîne un déchirement, voire une forme de maltraitance.
En tant que téléspectateur et en tant qu'ultramarin, c'est un gros déchirement puisque depuis l'âge de 10 ans, je suis en Hexagone. Je suis né en Guadeloupe et si vous voulez, j'ai vécu avec France O, cette chaîne, a grandi avec moi en même temps. Et à chaque fois qu'on voulait savoir ce qui se passait dans nos départements, territoires, on se précipitait sur France O et c'était devenu une partie de nous, vous voyez, c'était dans notre ADN. Et le fait qu'on nous enlève cette partie de notre ADN, ça nous fait réagir très très fortement. Et on est très très en colère. On est très très en colère parce qu'on considère que c'est une forme de maltraitance, c'est une forme d'injustice. Une maltraitance de plus, pourquoi ? Parce que après nous avoir empoisonnés à la chlordécone, après nous avoir ne pas avoir traité les sargasses, aujourd'hui, François, sa fermeture, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui nous fait dire que les ultramarins ne sont pas considérés comme faisant partie intégrante de cette République, de cette France.
Des propos recueillis par Sarah Ders pour France Culture. Le temps ce lundi sera nuageux, voire très nuageux, des Pays de la Loire jusqu'aux Hauts-de-France, avec quelques gouttes possibles au nord de la Seine. Ailleurs, de belles éclaircies sont prévues par Météo France. Le soleil sera même généreux sur le sud-est et en Corse. C'est là qu'il fera d'ailleurs le plus chaud aujourd'hui. 23 degrés à Bastia et à Marseille, comptez 20 degrés à Lyon, 17 degrés ce matin à Bordeaux et Strasbourg, 16 à Paris et Lille, 14 degrés dans la matinée à Rennes. Vous écoutez France Culture, il est 6h40. Jacques Munier, bonjour.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Vous êtes de retour dans les studios de France Culture. C'est un grand plaisir pour le Journal des Idées. Et ce matin, Jacques, la crise sanitaire au menu, le confinement, puis le déconfinement progressif nous ont amenés à prendre en compte l'importance subjective et sociale de nos corps. La rentrée qui s'annonce devrait approfondir cette expérience avec la distanciation physique maintenue et le port du masque étendu à l'espace public.
Paradoxalement, c'est dans l'immobilité et l'isolement que la dimension existentielle de la chair s'est manifestée, observe Camille Froidevaux-Métry sur le site AOC. En faisant disparaître les visages et en maintenant l'éloignement des corps, les précautions pour éviter la seconde vague retardent le retour à la normalité relationnelle de nos existences. C'est que, ajoute la philosophe, nos corps ne sont pas de simples organismes que nous mettrions en mouvement comme des machines. Ils ne sont pas les objets de notre volonté. Nous n'avons pas de corps, nous sommes nos corps. Et de citer Merleau-Ponty dans la phénoménologie de la perception, mon existence comme subjectivité ne fait qu'un avec mon existence comme corps et avec l'existence du monde. Ainsi, la conscience que nous avons de nous-mêmes, des autres et de notre environnement commun, tout comme le sens que nous donnons à ces trois dimensions subjectives, relationnelles et objectives, sont inséparables de notre expérience vécue de la corporéité. D'où le fait que la désensualisation des rapports humains, due au respect de la distanciation sociales nous conduisent à saisir paradoxalement et par défaut l'importance de l'intersubjectivité. Nous vivons dans l'illusion de l'autonomie personnelle, souligne la philosophe, persuadée d'être des individus souverains et indépendants, sans comprendre que ce n'est que dans la relation à autrui que nous sommes véritablement autonomes et libres. C'est la force de l'intersubjectivité façonnée au travers des interactions sociales, au niveau élémentaire des réponses émotionnelles et incarnées. Et c'est pourquoi le malaise que nous ressentons à ne pouvoir retrouver les autres qu'à distance et masqué est un malaise proprement existentiel. Déposséder des modalités incarnées du lien à autrui sans pouvoir ni toucher, ni embrasser, ni même sourire, nous endurons une injonction proprement inhumaine, conclut Camille Froidevaux-Métry. La dernière livraison de la revue Sensibilité, publiée par les éditions Anamosa, explore la chair du politique et les aspects émotionnels de l'engagement et de l'action collective. Montesquieu avait déjà formé l'hypothèse selon laquelle chaque système politique correspond à un modèle de passion politique, rappelle Ludivine Bantigny, Déborah Cohen et Boris Gobille. L'honneur est le principe monarchique, la vertu, celui de la République, la crainte, celui du despotisme. Mais l'invention, au cours du second 19e siècle, de la figure du citoyen électeur a relégué les formes de l'émotion partisane au bénéfice du modèle de la civilité électorale, une dévalorisation de l'émotionnel qui s'est traduite par la relégation des registres populaires d'énonciation du politique. Je cite, « Les candidatures ouvrières ont fait l'objet d'un travail de délégitimation visant le langage familier, les excises corporelles populaires, les expressions passionnées qui y étaient engagées. » On peut rappeler l'origine commune des mots « émeute » et « émotion », mais Antoine Lilti évoque pour sa part et discute la thèse de l'historienne de la Révolution française Lynn Hunt, selon laquelle les droits de l'homme ne reposent pas sur un discours rationnel et philosophique, mais sur une nouvelle sensibilité, sur le mécanisme émotionnel que les psychologues appellent empathie, empathie et que l'on appelait plutôt au XVIIIe siècle sympathie. C'est particulièrement vrai sur la question de la torture comme outil pénal ou de l'esclavage. Les actes de la recherche en sciences sociales s'intéressent au rôle politique des affinités dans le processus électoral. Face à la sophistication croissante du travail de rationalisation présidant à la conquête des suffrages, sondages ciblés, autres logiciels d'identification des électeurs précédant les pratiques de porte-à-porte, la montée de l'abstention, la défiance affichée à l'égard des institutions politiques, la raréfaction des militants sur le terrain redonnent toute leur valeur au groupe primaire d'appartenance des citoyens et aux sociabilités ordinaires, famille, amis, collègues. Lorenzo Barostella, Martin Baloge, Clémentine Bergeau, Safia Dani et Anne-France Teclet ont mené l'enquête dans un quartier à la fois populaire et gentrifié du 18e arrondissement de Paris. Le titre de l'article résume leurs observations. Voter entre soi et contre les autres, alors que les partis politiques concentrent leur mobilisation dans la partie bourgeoise du quartier, entérinant ainsi sans barguigner le faible intérêt pour les campagnes dans les classes populaires périurbaines. Dans la partie plus déshéritée de l'arrondissement, au pied de Montmartre, c'est l'expérience des discriminations, notamment raciales, qui suscite la politisation. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux avec vous Julie Gacon, bonjour.
Bonjour Jacques Munier, ça fait plaisir de vous revoir.
Bonjour à toutes tout et à fait tous, réciproque.
Ça fait également plaisir de vous retrouver.
Au sommaire aujourd'hui, quelle transition se dessine au Mali?
Oui, la junte qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta le 18 août dernier avait d'abord promis une transition politique civile et des élections. On se dirigerait finalement vers une transition militaire, non seulement avec un président militaire, mais aussi avec un gouvernement composé en majorité de militaires. Et cependant, 3 ans, c'est ce qu'a déclaré hier un représentant de la CDAO, la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest, après avoir rencontré la nouvelle équipe au pouvoir à Bamako et obtenu manifestement la très prochaine libération du président déchu. Bonjour Michel Galli.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes géopolitologue, spécialiste de l'Afrique subsaharienne et auteur de La guerre au Mali aux éditions La Découverte. Alors il reste encore à finaliser cet accord dessiné ces 2 derniers jours et c'est ce à quoi s'emploieront les représentants de la junte et ceux de la CDA aujourd'hui. Mais qui aurait intérêt à une transition militaire et pourquoi?
Bon, certainement les militaires, hein, parce que tout ça c'est un peu des paroles verbales. Comme vous savez, quand il y a un putsch, les militaires ils ont tendance à s'accrocher au pouvoir et ne pas céder, comme vous venez de le dire, tout de suite la place aux civils. On dirait par certains côtés qu'ils ont étudié au Ludwig le manuel du coup d'État, hein, parce qu'ils ont tout de suite annoncé qu'ils étaient là pour peu de temps, qu'ils allaient s'allier aux civils, qu'il fallait pas s'inquiéter, que d'ailleurs l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta était d'accord avec eux. Donc, je sais pas s'ils ont un conseiller de communication ou si dans leurs longues études ils ont travaillé le sujet, mais visiblement la communication est au point. Et pour autant, la situation est très évolutive et risque de changer très rapidement.
C'était pas que de la communication, il y avait aussi un document qui circulait ces derniers jours dans les milieux politiques maliens et que le journal Le Monde s'était procuré, qui évoquait la mise en place d'un collège transitoire composé de représentants des différentes forces vives de la nation. C'était un document assez précis, on parlait de militaires et de civils, issus des partis politiques, de la société civile, des organisations des femmes et des jeunes, du barreau malien, des organisations religieuses. Est-ce que la société civile, elle peut laisser faire ça? Elle a été très présente pendant des semaines de manifestations. Les représentants de ces mouvements d'opposition à Ibeka ont discuté beaucoup avec la junte. Est-ce qu'il se pourrait qu'elle soit totalement exclue aujourd'hui?
Personnellement, je pense que c'est l'inverse, hein, que les militaires maliens, d'ailleurs, on voit plusieurs têtes, on ne sait pas trop qui dirige cette junte, hein, au fond. Ils n'ont comme allié que le mouvement d'opposition Ibrahim Boubacar Keïta, donc pas son parti, pas l'ancien parti d'Ibeka. Pas forcément le parti de Soumaïla Cissé, l'opposant principal qui a été enlevé il y a quelques mois par des djihadistes, ce qui est particulier, mais c'est au fond l'imam Diko et le mouvement d'IM5, une sorte de coalition hétéroclite qui a mené au fond le combat contre le système et contre Ibeka.
Et l'imam Mahmoud Diko, cette figure charismatique qui, entre autres, a été figure de proue de ces manifestations, qui prône un dialogue avec les djihadistes, est-ce que c'est compatible avec une transition militaire?
Alors, c'est très complexe parce que l'imam Diko, comme vous l'avez dit, c'est un chef religieux d'obédience wahhabite qui est effectivement charismatique, qui est très appuyé. S'il voulait être le dirigeant d'un nouveau Mali, personne ne pourrait au fond s'opposer à lui, même les militaires. Or, c'est pas ce qu'il veut. D'après ses déclarations, il préfère être un peu le faiseur de roi, en retrait, tout puissant, mais pas directement au pouvoir.
Alors, de qui pourraient s'entourer les putschistes au sein de l'armée malienne qui, comme dans d'autres pays du Sahel, est de plus en plus accusée d'exactions auprès de ses propres populations? Exemple, entre autres, la force antiterroriste au Mali, la FORSAT, créée en 2015 dans le cadre de la lutte contre les djihadistes. Elle est composée de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de la garde nationale du Mali. Elle a été formée par l'Union européenne, la France, les États-Unis, entre autres, et on découvre, là, très récemment, qu'elle a été impliquée dans la répression des manifestants. Aujourd'hui, à quoi ressemble l'armée malienne et est-ce que les putschistes peuvent s'entourer de militaires pour former un gouvernement de transition militaire ?
Alors, effectivement, l'armée malienne, c'est une armée un peu hétéroclite. Il y a eu d'ailleurs plusieurs coups d'État. Je rappelle celui du capitaine Sanogo qui a renversé le président Amadou Toumani Touré en mars 2012. Il y a eu la même chose, le même putsch au fond, prise de pouvoir par les militaires et les civils à l'époque fin 2012 contre le président par intérim Diokounda Traoré. Donc il y a une tradition au fond de coup de force pour le moins et ensuite peut-être passage aux civils. Donc c'est une armée hétéroclite mais c'est une armée qui est faible. C'est une armée qui est faible d'abord par rapport aux forces extérieures. Dans le pays, il y a la force Barkhane française, plus de 5000 hommes dans 5 pays, le G5 Sahel, surtout la MINUSMA, la force des Nations Unies, plus ou moins incompétente, il faut bien le dire, avec ses 12 000 hommes qui n'arrivent pas à grand-chose, mais enfin c'est une force extrêmement importante. Il y a les milices pro-gouvernementales, évidemment, contre les djihadistes. Donc vous voyez, dans ce contexte, l'armée malienne, elle est faible, elle est sous-équipée, et peut-être sa chance, c'est d'être en contact avec des forces civiles dynamiques.
Une armée faible, c'est peut-être là la limite de la comparaison qu'on fait entre ce coup d'État au Mali et celui qui, l'année dernière, au Soudan, a renversé Omar el-Béchir, aussi avec une certaine forme de soutien populaire. Mais là, l'armée ne dispose pas du tout de la même assise. On n'est pas dans des situations très comparables, si ?
Alors, pas tellement avec le Soudan. Effectivement, ça a été une situation très intéressante où il y avait un mouvement civil très puissant et une armée très divisée. D'ailleurs, la transition a été difficile pour les militaires de donner petit à petit du pouvoir aux civils. Mais beaucoup dans la sous-région, dans l'Afrique de l'Ouest, font référence, par exemple, à la situation du Burkina Faso en 2014, à la chute de Compaoré. Et c'est un peu cette crainte de ce qu'on appelle, entre guillemets, le syndicat des chefs d'État africains de la région, de voir une sorte d'effet domino où les peuples, alliés avec des factions militaires, renverseraient des gens qui se sont trop attardés ou, comme a dit le président de Guinée-Bissau, font des coups d'État via des volontés de faire des troisièmes mandats manifestement anticonstitutionnel.
Alors une armée faible au Mali, un État faible également, et c'est le reproche que formulent tous ceux qui disent que l'opération Barkhane, par exemple française, est vouée à l'échec parce que l'État malien de toute façon est faible et qu'il y a un problème, selon le terme en vigueur, de gouvernance. Trois ans, une transition de trois ans, c'est ce qui se dessine finalement, on en saura un petit peu plus dans la journée. Est-ce que ça vous paraît déjà peut-être plus plausible que neuf mois et quelles seront les priorités d'une transition ?
Je pense qu'il ne faut pas faire tellement attention à ces déclarations parce que c'est vraiment très évolutif. Est-ce qu'il va y avoir un président civil issu de M5 ? Est-ce qu'il va y avoir un président militaire ? Quelle va être la composition du gouvernement ? Quelle va être l'attitude des pays de la sous-région et par ailleurs de la France ? Donc tout ça évolue à toute vitesse. Mais je retiens ce que vous avez dit, un État faible. Et comme dit le professeur Bertrand Badi, un État faible et des sociétés fortes, c'est le cas du Mali, c'est le cas de tous ces États sahéliens. Et paradoxalement, l'intervention française conforte au fond, si je peux dire, ses faiblesses. C'est-à-dire la force Barkhane intervient dans les 5 pays du Sahel sans demander l'autorisation aux États en question. Et par là même, affaiblit l'État sahélien où elle intervient.
La France, a priori, elle ne voulait pas de transition militaire. Je dis, elle ne voulait pas. Bon,
elle voulait pas de coup d'État.
Elle essaye de ne pas trop se prononcer officiellement parce qu'on l'accuserait de tirer les ficelles. Mais comment est-ce qu'elle peut se positionner effectivement, ses troupes sont là-bas. L'opération Barkhane, mais elle est aussi fer de lance d'une opération européenne, Takuba, qui a commencé à prendre ses quartiers cet été.
Oui, alors les Européens, Takuba ou pas, ils sont effectivement très réticents depuis longtemps à conforter l'armée française au Mali. Hein. On a un point de vue qui n'est pas celui ni des États africains, où il y a des réactions au fond anti-néocoloniales puissantes, notamment au Mali. Et en Europe même, tout le monde n'est pas d'accord avec cette intervention. Je note d'ailleurs que les analystes militaires et certains collègues un peu... soi-disant spécialistes de la région, n'ont pas vu venir le coup d'État. Donc il y a un défaut, à mon avis, d'analyse et de prospective, puisque les militaires français disent que la situation n'est pas militaire mais politique. Pour autant, ils ne font rien, ou l'État français ne fait rien pour une alternative, au fond, à la situation catastrophique que l'État malien et plus largement sahélien, la corruption, la malgouvernance, etc.
Et la CDAO, alors, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, comment est-ce qu'elle peut aujourd'hui parvenir à un accord avec les putschistes, elle dont on rappelle qu'elle est composée des autres chefs d'État ouest africains et qui jusque-là s'était totalement opposée au renversement d'un pouvoir issu d'élections démocratiques?
Alors CDAO, c'est, si je peux dire, un tigre en papier, hein. Ils sont extrêmement divisés, il y a les durs comme Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire qui voit un peu midi à sa porte et la contagion gagner son pays, donc qui serait pour une intervention militaire. D'autres comme Macky Sall du Sénégal qui disent non, il ne faut pas isoler le peuple malien et l'affamer avec des sanctions inopportunes. D'autres comme le président de Guinée-Bissau dit, comme je disais tout à l'heure, il y a aussi des coups d'État anticonstitutionnels en cours contre le troisième mandat, il faut tenir compte de ça. Donc c'est une sorte de réseau de chefs d'État qui est quand même très divisé.
Des chefs d'État qui ont peut-être aussi un petit peur pour eux-mêmes. Je pense la Côte d'Ivoire, la Guinée, Alassane Ouattara, Alpha Condé, ils se représentent pour un troisième mandat, alors d'ailleurs que la Constitution ne les y autorise pas. Ils viennent ensuite vérifier le bon respect du droit au Mali. Un accord qui sortirait de négociations entre CDAO et la junte sera forcément accepté par la population, considéré comme légitime?
La CDAO divisée et sans force d'intervention, c'était les Comores à l'époque, on n'a pratiquement aucun pouvoir. Et je note d'ailleurs que la diplomatie française est sur des positions différentes, en quelque sorte à entériner le coup d'État, contrairement à la CDAO.
Merci beaucoup Michel Galli. Merci. Je vous souhaite une bonne journée. Je rappelle le titre de votre livre, La guerre au Mali, aux éditions La Découverte. Merci à vous.